marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Jacques Lang, le festival de théâtre de Nancy.
Il y avait quand même quasiment 30 salles officielles, dont 5 étaient des vraies salles officielles. Il y avait le Grand Théâtre, la salle Poiret, je ne sais plus quoi. Et tout le reste, c'était des espèces de salles qui étaient aménagées pour devenir des salles de spectacle. Quoi.
Tout était, tous les tabous étaient brisés, le temps est arrêté, plus personne ne dormait. Les chambres à coucher communiquaient en permanence, les gens n'étaient plus dans leur état normal. Non mais, faut pas me dire ça, faut pas exagérer. Le désir, comme dans un carnaval, on abolit les règles, il y avait cette espèce de rituel carnavalais, mais de folie jubilatoire, de jouissance absolue, que tout le monde, et tout le monde a cette mémoire-là quand même, bien sûr.
Pourtant, au départ, au début des années 60, qui aurait parié un copec sur les chances de succès et de durée d'un festival issu du monde étudiant qui présentait des troupes internationales sans le sou, jouant qui plus est dans toutes les langues. Mais Nancy, ville d'apparence placide, avait la chance de compter un étudiant pour 6 habitants, et toute cette jeunesse était soulevée d'inquiétude, impatiente de changement. Elle a fourni une grande part des bénévoles qui portèrent la manifestation. La ville avait aussi dans ses rangs un juriste débutant qui n'était pas dénué d'ambition, mais ne comptait pas alors la quitter. C'était le jeune Jacques Lang, un animateur énergique qui écrivait des lettres dans tous les sens, que sa jeune femme, déjà pendue au téléphone, aidait et que les prospecteurs du festival s'en allaient faire des découvertes à travers le monde. Nancy fut-il aussi populaire qu'on l'a dit et Jacques Lang était-il précisément un révolutionnaire? En tout cas, dans ces années effervescentes, le festival a fait circuler la parole. Grâce à des artistes qui étaient des leviers. Citons parmi tant d'autres Grotowski en 65, le Brad & Pupet en 68, Tadeusz Kantor et Bob Wilson en 71, Pina Bausch en 77. Nancy constitua la vie de beaucoup de ceux qui y assistèrent. Valérie Lang disait qu'elle était devenue comédienne parce qu'elle avait vu une ville entière envahie, retournée par l'idée de théâtre.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Jacques Lang, bonjour.
Bonjour.
Alors, je lis dans le livre que Jean-Pierre Thibaudat consacre à cette histoire du Festival de Nancy, c'est au solitaire intempestif, qu'il a été beaucoup aidé par les archives que vous avez déposées à l'IMEC. Alors, vous êtes un homme organisé, donc ces archives sont parfaitement classées.
Elles sont classées grâce à l'IMEC.
Alors, pas grâce à vous.
Non, j'ai déposé ce que j'avais et ensuite elles ont été, en effet, plusieurs y ont contribué, notamment Laurent Martin.
Dites-moi, Laurent Martin qui a fait un livre sur votre compte, Naguère aux éditions Complexes. Alors, vous êtes moins organisé que je ne le pensais, mais j'ai appris une chose. Vous avez vraiment passé un permis poids lourd quand vous avez créé une troupe universitaire à Nancy ?
Oui, bien sûr, oui.
Comment ?
Mon idée, lorsque nous avons créé un théâtre étudiant, quand je suis entré à la fac en 58, était de sillonner les routes de France et les routes d'Europe. Et donc, je me suis dit, après tout, je devrais transporter les acteurs. Donc, j'ai passé le permis pour la conduite d'autobus ou de bus. Et on transportera aussi les décors. Et donc, j'ai passé un permis poids lourd. Dieu merci. Pour la sécurité et pour la paix publique, j'ai peu conduit ensuite un bus ou un camion.
Donc vous avez joué à l'étranger dans des festivals sans le sou. Ce serait une formule de vous, c'est pas possible ça que vous alliez jusqu'à des formules aussi extrêmes. J'aime le monde et le monde vient à moi.
Non, puisque j'étais à Nancy et moi-même j'étais un passionné des autres cultures, des autres peuples, je me suis dit après tout, essayons de faire venir le monde jusqu'à Nancy. Et d'une certaine manière... Le pari a été réussi, puisque de l'Amérique latine à l'Asie, de l'Afrique au nord de l'Europe, tout le théâtre vivant, à un moment ou à un autre, a surgi à Nancy pendant ces années heureuses.
Oui, enfin, tout de même, vous envoyiez des missives de Minissi que vous faisiez précéder de missives de votre main. C'était les prospecteurs.
Quand on est parti, c'est assez drôle, parce que le soir, on avait rencontré Lang pendant assez longtemps, quand même, et on avait eu... Il nous avait absolument bombardé de... d'adresse, de nom. Et après, il fallait aller voir, tu vois, la terre entière du théâtre.
Sur les prospections en Amérique du Sud, c'était quand même aussi d'être confronté, je me rappelle en arrivant au Brésil, à des acteurs, des écrivains ou des metteurs en scène qui étaient tous passés par la GIGN, qui étaient tous passés par la torture, qui avaient... c'était quand même... lourd, quoi, à porter, je sais pas quel âge j'avais quoi, 23 ans, 24 ans.
Même grâce à ça, je veux dire, grâce à Nancy, à ces prospections, que beaucoup de troupes latino-américaines ont
survécu.
Ont survécu, non seulement physiquement, mais artistiquement.
Tout à fait.
Lev Bogdan, et puis, avant lui, Françoise Berge. Oui, l'Amérique latine, ça faisait partie des tropismes.
Et je dirais, Christian du Pavillon, qui a été un des principaux prospecteurs.
Ah bah, Thibaud a dit la star des prospecteurs. Oui, parce qu'il y a toujours un caractère d'étoile qui s'attache à Christian du Pavillon, qui ensuite a été un de vos grands collaborateurs. Alors, absolument. Comment faisait-il, lui et les autres? Il fallait de l'intuition, de la chance?
Il fallait de l'intuition, du culot, de l'audace. Ces prospecteurs partaient avec 3 francs 6 sous. On essayait de trouver des contacts localement, et puis ils se débrouillaient. Et finalement, ils étaient passionnés par cette mission qui consistait à identifier pays par pays les hommes ou les femmes de théâtre tournés vers la même vision que nous, c'est-à-dire un théâtre neuf, un théâtre d'invention, un théâtre de contestation, s'il faut le dire, contestation esthétique ou politique.
Vous étiez porté par le fait que, aussi bien dans le monde théâtral que dans le monde politique, il y avait des nouveaux mouvements qui attendaient derrière le portillon. Dans le métro à Paris, à l'époque, il y avait des portillons.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait, à ce moment-là, d'abord, il y avait, disons-le, Françoise Berge, je crois, l'évoque, des dictatures en Amérique latine, des dictatures dans l'Europe de l'Est. Il y avait encore le franquisme en Espagne, le salazarisme au Portugal. Et puis en France, nous nous bagarrions aussi, c'était quand même un peu moins grave, mais contre un système autoritariste incarné par le régime de la Ve République.
D'accord. 1968, on dit que le Festival de Nancy a été étonnamment calme. Il est vrai qu'il a eu lieu avant la révolution ou la transformation de mai. Un grand débat, cependant, vous a marqué entre Gilles Sandier, un des piliers du festival, grand critique de théâtre, et Jean-Louis Barrault.
Oui, c'était en avril 1968. Mais sur le plateau du théâtre, après une représentation d'un extrait de Tête d'or de Claudel, et se sont affrontés là deux visions, une vision traditionnaliste d'une société qui paraissait assurée d'elle-même. Jean-Louis Barrault, qui a lui-même à une époque a été un révolutionnaire, et Gilles Sandier qui incarnait avec une vigueur, une fougue incroyable les aspirations de la jeunesse. Et c'était un débat d'une violence verbale assez inimaginable. Et finalement, lorsque mai 68 a surgi, pour nous, c'était la continuation normale des choses.
Mais attendez, vous n'êtes pas un révolutionnaire, vous. Vous êtes plutôt proche de Pierre Mendès France, que vous invitez deux fois au Festival de Nancy. Vous sentez bien que les mots qui tentent de traduire en 1968, je parle des mouvements politiques d'extrême gauche, l'élan ne correspondent pas à la réalité.
Oui, mais c'est une autre question. Mais aujourd'hui, c'est d'abord un mouvement de fond. C'est la jeunesse qui se soulève et les organisations qui ensuite ont tenté de récupérer le mouvement des organisations maoïstes, trotskistes, etc. En effet, moi, je n'appartenais pas à ces courants-là. Mais il ne reste pas moins que l'authenticité même, pour moi, en tout cas pour les étudiants, j'étais agrégatif à ce moment-là de droit, c'était les idées de liberté, d'expression artistique, de contestation de l'ordre universitaire et de l'ordre social.
69, vous avez publié l'année précédente « L'État et le théâtre », votre thèse. Vous allez bientôt devenir agrégé de droit. Et Christian du Pavillon vous aide à construire des chapiteaux du côté de l'Axou, dans les environs, dans la banlieue immédiate de Nancy.
Mais il se fait que après mai 68, le maire de la ville avait manifesté son mécontentement vis-à-vis de mes comportements durant cette période et avait laissé entendre que peut-être il interdirait le festival dans la ville même. Alors on a pris les devants et on a décidé de construire une cité des théâtres faite de morceaux de carton, de bouts de bois et de goudron. Et c'est Jean Prouvé, l'architecte ingénieur mondialement connu qui plus tard présidera le jury pour la construction du centre Pompidou. Jean Prouvé était de Nancy, son père était Victor, le fameux Victor Prouvé de l'école de Nancy, qui chaque semaine, dans nos bureaux, réunissait un groupe de jeunes architectes, de jeunes étudiants d'architecture, et on a eu cette folie de construire une cité des théâtres en 3 mois.
J'espère que c'était étanche parce que...
Il y avait 5 chapiteaux installés dans une prairie à Laxou. Et malheureusement, on a eu la pluie tout au long du festival. Alors la prairie était transformée en champ de boue. Tous les matins, les camions de la ville déversaient des tonnes de gravier. Et tous les soirs, il n'y avait plus de gravier. Tout s'enfonçait, les sièges, les podiums. Les chapiteaux s'enfonçaient aussi. On a tenu 12 jours. Il y avait un monde fou. Et les marchands de bottes ont fait fureur. Ils arrivaient avec leur camionnette et ils vendaient des bottes en caoutchouc.
Louis, vous êtes avec le Campesino à Nancy. Vous venez de Californie du Sud. Et votre théâtre, c'est un théâtre d'ouvriers agricoles qui est né au moment d'une grande grève en 65. Et la grève continue toujours. Quelle est votre impression de vous trouver à Nancy tout d'un coup ?
Bien sûr. Je peux vous dire que nous nous demandions si les problèmes des ouvriers agricoles californiens représenteraient quelque chose pour les habitants de Nancy, c'est-à-dire des Français. Mais en jouant dans la rue, en jouant pour les ouvriers de Nancy, nous nous sommes aperçus que nous n'avions aucune peine à leur faire comprendre la situation et à leur communiquer l'expérience des ouvriers agricoles. Ils comprennent ce qu'est l'exploitation, la lutte du peuple pour une justice sociale. Notre but, c'est l'agitation, la propagande pour la grève et la cause de l'ouvrier agricole.
Oui, mais la même année, 1969, au moment où le théâtre d'intervention des Chicanos de Californie réclame la présence de la lutte des classes sur la scène avec des acteurs qui sont des ouvriers agricoles, un jeune acteur roumain, Julian Negulescu, qui est venu aussi à Nancy avec sa troupe de Bucarest, profite des circonstances pour, comment disait-on encore à l'époque, choisir la liberté.
On s'est trouvé avec moins de comédiens qui n'ont pas reçu de passeport, etc. Dans un Nancy qui m'a semblé plein de couleurs. J'ai découvert des groupes comme El Campesino, qui agissait en Californie. Et tout doucement, des détails, certains détails qui mériteraient une autre émission ont fait que j'ai décidé de rester les mains dans les poches en France. J'avais 13 francs dans la poche et je suis resté en France. Ça a changé ma vie.
La même année, on avait eu en 68 le printemps de Prague et mai 68 avec un vocabulaire marxiste-léniniste. Le festival de Nancy s'intéressait aux deux situations.
Bien sûr. Bien sûr, et
vous dites bien sûr, c'était pas si courant à l'époque.
Toutes les idées qui traversaient le monde étaient représentées à Nancy à travers des spectacles, à travers des débats, à travers des écrits. Et même nous avions un journal du festival que nous avions poussé jusqu'au bout l'esprit de liberté, de contradiction, qui contestait parfois nos propres choix. Bon, on avait une espèce de passion pour l'art, pour les libertés. Et ce que vous rapportez à l'instant, Julian qui s'arrache à la dictature de Ceausescu, les campesinos qui luttent pour leur liberté comme paysans, comme ouvriers agricoles, tout cela, c'est un même monde qui, à ce moment-là, a envie de changer.
Oui, enfin, vous dites ça, mais Gilles Sandier, qui était un pilier du festival qu'on a déjà cité, disait « La lutte des classes est transposée sur scène ». Je ne sais pas si lui, il sentait ce double mouvement.
Mais oui, elle était transposée sur scène à travers des spectacles, certains très engagés. Des hommes, des Français, par exemple, comme André Benedetto. Nous n'avons pas cité le nom de Patrice Chéreau, qui a été une des révélations du Festival de Nancy. L'héritier de village de Marivaux, qu'il a présenté, c'était la première fois qu'il était devant un large public, avait été lu ou interprété comme une pièce, je ne dis pas révolutionnaire, mais comme une pièce qui révélait l'affrontement des classes.
Oui, enfin, là, vous rêvez, Jacques Lang, parce que quand on regarde le livre de Jean-Pierre Thibaudat, on voit, on est dans une période un peu antécédente, il y a encore un jury à Nancy. Patrice Chéreau ne reçoit aucun laurier, il paraît même qu'il pleure. Parce qu'il est déçu de l'accueil que lui ont fait les spectateurs de Nancy.
Oui, c'est vrai qu'il n'a pas été si bien reçu. et nous étions un petit nombre à le soutenir. Ses premières apparitions ont été contestées, mais ça c'est la vie artistique, la vie théâtrale. On ne convainc pas le premier jour.
Oui, mais je vais peut-être avoir une interprétation pas assez politique à votre goût. Chéreau, c'est d'abord la recherche d'une esthétique, et on va passer au festival de 1971, parce que après 69, vous voulez peut-être modérer les ardeurs, vous le rendez biennal. Il y a quelqu'un comme Cantor qui vient, un grand metteur en scène polonais, il ne correspond pas au canon dominant de la révolution politique à l'époque. Mais c'est d'abord une esthétique.
Mais c'est une révolution esthétique qui rejoint une volonté politique. Cantor souhaitait profondément, c'était une époque de dictature en Pologne, il était à Cracovie, il souhaitait profondément le changement de régime. Alors il exprimait à sa manière, dans une langue, dans une esthétique parfois étrange, baroque, pleine d'humour, de sous-entendus. Mais la révolution esthétique dans le cadre de Cantor rejoignait la volonté de révolution politique.
Parenthèse, comment faites-vous avec les acteurs communistes? Julian Negulesco ne vient qu'après avoir été sélectionné par les jeunesses communistes ou une organisation d'État. Avec Cantor, pour le faire venir, il faut négocier avec des organisations communistes?
Non. Non, mais je veux dire que finalement, ils obtiennent la possibilité. La troupe avec laquelle est venu Julian était une troupe qui était liée à une université roumaine. Le festival de Nancy était considéré comme le plus important festival de théâtre étudiant dans le monde. Je pense que les autorités roumaines ont pris le risque de faire venir à Nancy cette troupe.
Et les Polonaises, pareil pour Cantor.
Et les Polonais, pareil pour Cantor.
Parce que Cantor, il n'est pas dissident, il est indépendant.
Il est indépendant, le mot est juste.
Et la même année, 1971, Duperron, c'est un de vos prospecteurs, et Nicole Zand, après un courrier que vous lui avez envoyé, elle est journaliste et à l'époque correspondante aux États-Unis, vont amener Bob Wilson. Alors, Bob Wilson, vous l'avez trouvé où? Enfin, vos prospecteurs l'ont trouvé où?
Non, j'en avais entendu parler ici et là, une rumeur qui... laisser entendre qu'il y aurait quelque part aux États-Unis un metteur en scène d'un type nouveau. J'en savais pas plus. Et donc, en effet, Nicole Zand, qui se trouvait sur place, et Duperron, qui avait bien voulu travailler avec nous, sont allés rencontrer Bob. Et ont assisté à des répétitions. Je crois qu'ils n'ont pas vu l'intégralité d'un spectacle. Il nous fallait faire preuve d'imagination pour concevoir ce qu'allait être éventuellement le spectacle que créerait Bob à Nancy. D'ailleurs, il était si peu riche qu'il est venu avec une poignée de personnes et que nous avons recruté sur place les interprètes, y compris, j'allais dire, les animaux qui étaient sur la scène.
Mais qui peut prévoir la durée d'un spectacle de Bob Wilson? Dans le documentaire qui a été consacré au Festival de Nancy par Jean Grémion, voici le témoignage d'un spectateur, Jackie Chevalier.
Tout d'un coup, on se trouvait en présence de quelque chose qui était de l'ordre de l'OVNI, quoi. Bon, ce spectacle qui commençait à 9h et qui devait se terminer sur les coups de 5h du matin sans interruption, sans dialogue, sans texte, sans son, des images avec des déroulements comme ça, des situations bizarres, une chaise qui descendait tout doucement du plafond et qui donnait la notion du temps, des choses comme ça. Alors, la salle était pleine au départ, sous les coups de 9h, c'était rempli à ras-bord parce que tous les lieux étaient fréquentés. Et petit à petit, forcément, on était en présence de quelque chose de tellement inouï, la salle se désemplissait petit à petit, les gens sortaient, ou ils s'ennuyaient, pourquoi pas, ou ils étaient effectivement fatigués. Moi, j'étais littéralement hypnotisé, et on s'est retrouvé une quinzaine de personnes sur la place Stanislas, à 6h du matin, dans le brouillard, il y avait un brouillard comme il y en a souvent à Nancy, et on discutait, mais avec une passion, pour savoir si c'était du théâtre ou pas du théâtre. Ah oui, mais est-ce que le théâtre, c'est nécessaire qu'il y ait du texte? Non, peut-être pas. Alors, il y avait comme ça une espèce de passion. Hein. Alors après, il y a eu le lendemain, alors, bouche à oreille, il y a un truc qui se passe au Grand Théâtre, c'est pas croyable, on n'a jamais vu ça, c'est inouï. Alors là, il fallait commencer à se bousculer pour y rentrer. Moi, je me suis précipité le lendemain, parce que ça suscitait le désir de revoir ce spectacle. Moi, j'avais jamais vu ça avant, et je n'ai jamais vu ça après.
Ça durera tant qu'il y aura un spectateur dans la salle.
Oui. Et vous vous souvenez de la très belle lettre, je crois qu'elle figure dans le livre de Jean-Pierre Thibaudat.
Bah
de...
oui, même en page 2. En...
Non, non, pas la lettre de Bob Wilson. Ça, c'est la préface.
Ça, c'est la lettre de Bob Wilson à Jacques Lang, qui est dans le livre.
Oui, oui, non, mais je voulais parler de la lettre d'Aragon à André Breton.
Oui, oui.
Elle commence par ces mots, c'était publié dans les lettres françaises. « André, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau en ce monde. »
Et vous maintenez quand même que c'est un festival populaire, enfin, au sens politique du mot. Ben, c'était pas un festival populaire.
Mais il l'était, si, c'est le paradoxe, c'est qu'un festival en langue étrangère, sans vedette, sans star, était devenu par lui-même la star, si j'ose dire, pour les gens de la ville. Les étudiants, un millier, 1500, participaient à la préparation pendant des mois, et petit à petit, tous les quartiers s'y sont mis. Et c'est un événement qui, aujourd'hui encore, est dans la mémoire collective de Nancy.
Il faut dire que c'était un peu dionysiaque. Je crois que le premier nom du festival a été Dionysie Théâtrale. Alors nous sommes toujours la même année 71.
Deux acteurs s'infiltrent comme des fantômes. Ce sont des acteurs de Terayama, le plus radical des hommes de théâtre au Japon.
La scène finale devait se passer dans les fumées et dans la pénombre. Tous les petits japonais, petites japonaises étaient nus, complètement nus. Et sur la scène, on a entendu les premiers spectateurs qui disaient « Mais ils baisent !» Automatiquement, les électriciens de service ont voulu voir si c'était vrai, ils ont mis le plein feu. Alors là, la scène a été envahie en quelques minutes. Ça a été la chasse aux petites japonaises, peut-être aux petits japonais. Et en quelques minutes, pour elle, c'était Sodome. On a dû arrêter le spectacle.
Les troupes théâtrales sont par définition des jeunes, donc des amateurs. Par conséquent, ils traiteront exactement les mêmes thèmes que les grands auteurs classiques de tous les temps, du théâtre de tous les temps, à savoir la liberté, la justice, l'amour, la mort, Dieu, le sens de la vie. Mais ils le feront alors avec un accent d'abord de sincérité, de spontanéité, étant donné leur âge, et puis aussi, grâce à leur inexpérience, avec une certaine sauvagerie, je dirais, une certaine élémentarité, qui donne un prix extrêmement fort à ce qu'ils produisent là.
Un religieux de l'époque, le père Ulrich, ça a toujours été votre habileté d'ailleurs, Jacques Lang, d'avoir quelques alliés, catholiques de gauche, comme on dit, ou bien bourgeois contre les autres bourgeois.
Oui, on peut vouloir un profond changement et ne pas être dépourvu d'un certain sens, je dirais, tactique, pour parler vite. Non, ce qu'il faut essayer de comprendre est que le livre, remarquable livre de Jean-Pierre Thibaudat,
Solitaire intempestif.
Solitaire intempestif, raconte. C'est que pendant ces 12 ou 15 jours, toute une ville était en émoi. Une sorte de communauté se constituait entre les acteurs, les auteurs, les étudiants, les adultes. Et toute cette ville vibrait à l'unisson. Je crois que c'est un événement assez unique en son genre. L'autre chose qui était assez étonnante, c'est que c'était un festival de découverte. Les troupes invitées étaient inconnues. Et du coup, beaucoup de gens, ou d'acteurs, ou de metteurs en scène célèbres, ont fait leurs premières armes à Nancy. On a cité beaucoup Bob Wilson, Patrice Chéreau, Pina Bausch, Cantor et tant d'autres.
Enfin, à l'unisson, imaginez-vous maire. Ça vous serait arrivé, quand vous êtes devenu maire de Blois, d'avoir tous ces trublions, ce défouloir. Enfin, je parle comme le député maire Pierre Weber dans les années 60.
Il y a un an, nous avions eu quelques craintes. C'est la raison pour laquelle, cette année, nous avons en quelque sorte, par la création d'un comité des sages, tenu à bien déterminer à l'avance les cadres dans lesquels se dérouleraient les manifestations, mais sans cependant imposer en quoi que ce soit des thèmes ou en exclure certains. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne fasse pas simplement du sens unique, qu'on ne fasse pas simplement de la polémique pour la polémique. Il faut considérer cette manifestation si importante comme un vaste creuset.
Julian Negulesco, qui a choisi la liberté en 69 et qui est devenu membre du conseil d'administration de Nancy, avait une tactique, lui aussi, à l'endroit du maire successeur de Monsieur Weber.
Je me souviens d'un personnage qui s'appelait Monsieur Martin, j'ai oublié son prénom, qui était le maire, sénateur maire de Nancy à l'époque, Et Jacques Lang avait trouvé, pour faire passer un spectacle qui pouvait déranger le politique, qui donnait aussi une partie des subventions, Jacques avait trouvé une stratagème qui était diabolique. On lui parlait des spectacles qui n'existaient pas. Et on les décrivait, non, là, ils jouent tous à poil, ils vomissent, mais c'est intéressant, hein. On l'effrayait, et on arrivait à faire passer le spectacle qu'on avait vu, qu'on avait choisi, et qui aurait pu déranger le politique.
Enfin, les archives que vous avez confiées à Jean-Pierre Thibaudat ne témoignent pas de cette tactique supplémentaire.
Non, j'ai écouté avec attention ce que disait Julian. Je n'ai pas à se souvenir, mais s'il le dit, c'est que c'est vrai.
L'État soutenait?
L'État, ça a bougé avec le temps. L'État fut longtemps indifférent. Je dois dire que l'équipe qui nous a vraiment soutenus, c'est l'équipe de Jacques Duhamel. Jacques Duhamel, d'ailleurs, pas parce qu'il a soutenu Nancy, mais parce qu'il a fait d'autres belles choses, a été un grand ministre de la Culture. Et son équipe était une équipe remarquable, notamment Jacques Rigaud et Antoine de Clermont-Tonnerre, qui aujourd'hui est producteur de cinéma, comme vous le savez. Vraiment, ils ont apporté un souffle nouveau dans la gestion des affaires culturelles. Et ils nous ont soutenus, et avec beaucoup de force et de courage. C'était pourtant l'époque de la présidence Pompidou.
À partir du milieu des années 70, je fais un saut là. Est-ce que vous avez l'impression que l'espoir s'épuise? Ou alors vous partagez maintenant votre vie entre Paris et Nancy, vous dirigez un moment Chaillot, vous devenez conseiller de Paris en 1977, et ça turbule pas mal hein, au Festival de Nancy, parce que certains vous reprochent de faire trop de politique, d'organiser des colloques, de vous intéresser surtout à la visite de Mitterrand, et puis d'autres disent, mais il y a une divergence de vie aussi entre Jacques Lang et nous autres, les pauvres théâtreux.
Non, tout ça est un peu de la reconstitution après coup. Seulement, il se fait qu'à un moment, en effet, ma vie s'est orientée différemment. Mon métier de professeur, mes engagements politiques plus ancrés, mon rapprochement avec François Mitterrand. J'avais longtemps été lié à Mendès France. D'ailleurs, je suis resté lié à Mendès France jusqu'au bout de sa vie. Bon, font que progressivement, j'ai quitté Nancy. Voilà, c'est tout. J'y avais consacré 20 ou 25 ans de ma vie.
Alors, il y a une phrase de votre femme que cite Jean-Pierre Thibaudat dans son livre. Chez quel éditeur déjà?
Les solitaires intempestifs.
Ah, c'est pas mal comme nom d'édition. Vous savez, on peut pas l'arrêter. Il refait la même chose à Paris qu'il a fait à Nancy.
Mais c'est vrai que l'esprit a la raison. Ma femme Monique, sans laquelle d'ailleurs, je n'aurais rien fait de tout cela. Elle a été co-auteur ou co-actrice de tout ce que j'ai pu entreprendre et de tout ce que je continue à imaginer aujourd'hui. Elle est irremplaçable. Nous faisons partie de la même équipe pour l'action, pour le changement et pour l'accomplissement de grands rêves. Et elle n'a pas tort parce que j'ai appris à Nancy, mais d'autres avec moi. Tout ce qui ensuite m'a permis d'imaginer la politique que j'ai conduite au ministère de la Culture ou au Théâtre de Chaillot ou aujourd'hui encore maintenant à l'Institut du Monde Arabe. Voilà, c'est Nancy qui nous a forgés, formés, transformés.
Alors ça, regard vers l'horizon. Et quand vous retournez en arrière, vous vous dites, comment tout ça a-t-il été possible?
Mais je me pose parfois la question pour tout. Comment c'est possible d'avoir pu, comme ministre de la Culture, construire en quelques années autant de choses un peu partout? Mais c'est qu'il y a des périodes où on est porté par une ferveur, par une énergie, par une force qui vous fait bousculer tous les obstacles.
Donc une force sociale, donc une force sociale, dont vous êtes à peine l'interprète.
Absolument, une force sociale, une force culturelle, et puis sa propre conviction aussi, sa propre envie, son propre désir.
Oui, parce qu'il y avait quand même une ambition personnelle dans tout ça, Jacques Lang. Vous n'en étiez pas dénué.
Oui, mais c'était pas écrit de manière si évidente. Je n'avais pas décidé en créant le Festival de Nancy qu'un jour je deviendrais ministre de la République française pour la culture.
Au fond, au grand effroi du maire de Nancy, vous auriez pu rester à Nancy.
Je veux dire un mot, le livre de Jean-Pierre Thibaudat, parce que c'est le sujet, il a fait un travail magnifique de recherche, de découverte. Et je remercie aussi au passage Daniel Rosenzweig qui l'a épaulé continuellement.
Alors moi je remercie Gaël Braouezek à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation et Ilinka Negulesco qui a préparé cette émission.